France Inter, le 6-9, journée spéciale, la science face au cancer.
Et un grand entretien dans le cadre de notre journée spéciale consacrée à la science face au cancer sur France Inter. Vaccins, nouvelles thérapies, intelligence artificielle, nous sommes peut-être à un tournant dans la lutte contre cette maladie. Où en est la recherche? Que nous est-il permis d'espérer et à quel horizon? Course de vitesse entre le nombre de cancers qui explosent et les progrès de la science. On va examiner tout ça. Intervenez, chers auditeurs. Faites-nous part de votre expérience, de vos espoirs, de vos doutes également. Au standard au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Avec Marion Lourd, nous recevons deux grands spécialistes de la question, la docteure Suzette Delaloge et le professeur Jean-Yves Blais. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue, docteure Suzette Delaloge. Vous êtes oncologue, directrice du programme de prévention personnalisée des cancers, Interception, d'un institut dont on a tous le nom en tête lorsqu'il est question de lutte contre le cancer, l'Institut Gustave Roussy. Et vous êtes spécialiste du cancer du sein. Jean-Yves Blais, vous êtes oncologue également, directeur du centre Léon Bérard à Lyon et président d'UniCancer, qui est une fédération française des centres anti-cancer. Merci de nous aider à y voir plus clair en ce jour où on a voulu s'emparer de ce sujet. France Inter consacre une journée spéciale au cancer, une journée spéciale au crabe. Le mot seul de cancer suffit à faire peur à chacun d'entre nous. On peut le vivre, le cancer, comme une fatalité, parfois comme une loterie, parfois aussi comme une profonde injustice. Qu'est-ce qu'il représente ou que représente cette maladie pour vous deux qui avez consacré votre vie professionnelle à lutter contre elle?
Merci beaucoup. Merci.
Suzette Delaloge.
Merci de nous donner la parole. Oui, c'est notre ennemi public numéro un. C'est ce qui motive toute notre carrière, tous nos jours et la recherche. Et c'est aussi probablement l'endroit dans la santé où on a fait le plus de progrès dans les 30 dernières années.
Oui.
C'est là où il se passe des choses, là où tout bouge, là où aussi les relations humaines avec les personnes sont les plus intenses. Je pense qu'on vit ensemble une sorte de guerre avec beaucoup de personnes. Et je crois que on va en discuter. Mais les progrès qu'on a fait ces dernières années nous laissent vraiment un espoir pour arriver à vaincre le cancer ou un certain nombre des cancers dans les années qui viennent.
On va y venir, évidemment. La guerre est déclarée, mais ce mot de cancer, la maladie elle-même, professeur, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Est-ce que c'est un ennemi, comme le disait la docteure à l'instant? Est-ce que c'est quelque chose qui est incarné, qui relève de l'imaginaire, ou est-ce que pour vous c'est uniquement clinique?
Alors c'est évidemment une maladie dont l'importance sociale est majeure. 430 000 nouveaux cas, 160-170 000 décès par an liés au cancer, une augmentation nette du taux de guérison des cancers au cours des années précédentes, et ce du fait d'un phénomène très, très important qui est la compréhension de la biologie de la maladie.
Ah oui.
Et en comprenant la biologie de la maladie, on est capable de délivrer des solutions thérapeutiques qui n'existaient pas avant.
La biologie de la maladie, explication?
La biologie de la maladie, ça signifie pourquoi la cellule normale devient une cellule cancéreuse. Quelles sont ces anomalies de fonctionnement qui font qu'on va pouvoir la traiter spécifiquement et éviter de traiter les cellules normales qui n'ont pas besoin de nos traitements?
L'Organisation mondiale de la santé anticipe 77% de nouveaux cas de cancer en 2050 par rapport à 2022. Ça veut dire quoi, Suzette Delaloge? Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, on va tous être concernés.
Oui, pour l'instant, on a une probabilité d'avoir un cancer au cours de sa vie qui est de l'ordre de 60%. Avec le vieillissement de la population mondiale, globalement, le nombre de cancers va augmenter très clairement. Mais il y a d'autres effets. Et ces effets sont des expositions endogènes, exogènes. Enfin, ça vient de nos modes de vie, de la façon dont on se reproduit, du fait qu'on a des grossesses plus tardives, moins d'enfants pour les femmes. Mais surtout nos expositions, la sédentarité, le manque d'activité physique, une alimentation trop riche, et c'est très très vrai pour les populations occidentales. Il y a des expositions à des agents infectieux, mais ça c'est vraiment quelque chose auquel on a fait face, le papillomavirus avec le vaccin qui a émergé dans les dernières années. On s'est éradiqué l'hélicobactère et évité tout ce qui a été agent infectieux dans les dernières années. Je pense qu'on a vraiment avancé de façon majeure. Par contre, tout ce qui est l'exposition liée à nos modes de vie, à notre alimentation, à la pollution diverses et variées, ça c'est quelque chose qu'on doit aujourd'hui prendre en charge, et pour l'instant on en est encore au balbutiement.
Jean-Yves Blais, un nombre de cas qui augmente à cause du mode de vie, nous disait le docteur Suzette Delaloge, mais aussi, peut-être parce qu'on les détecte mieux ?
Alors, on les détecte mieux, c'est certain. On a un diagnostic des cancers qui touche beaucoup plus globalement la population. Mais il faut se rappeler quand même que, effectivement, l'augmentation de l'espérance de vie, les cancers, ça survient majoritairement chez les sujets âgés de plus de 55 ans. Donc, tabac, alcool, alimentation, absence d'exercice physique, pollution, sont des éléments important pour cette augmentation.
Mais professeur, vous savez, on le sait tous, il y a des jeunes qui ont le cancer et des formes de cancer extrêmement graves, il y a même des enfants. On vit ça comme une forme d'injustice totale. On ne peut pas faire uniquement ce lien de causalité, justement. C'est le côté loterie de cette maladie qui la rend irrationnelle et dangereuse.
Alors la loterie, c'est... simplement...
C'est une mauvaise expression ?
Non, c'est une très bonne expression, mais c'est la loterie, c'est juste quelque
injustice.
Chose que l'on ne comprend pas en fait sur le plan biologique, et nous, que nous allons comprendre, je pense, parce qu'effectivement les cancers des personnes jeunes, des enfants ne résultent pas des mêmes mécanismes que les cancers des sujets âgés, mais la compréhension de pourquoi ici et maintenant, pourquoi moi, pourquoi mon enfant, c'est quelque chose qu'on est en train de décrypter actuellement.
Docteur Suzette Delaloge, il y a un progrès sur la prévention. Vous faites partie d'un programme de prévention personnalisée. Ça veut dire quoi ? C'est un progrès aujourd'hui de la science.
Absolument. Déjà, comme l'a dit Jean-Yves, en fait, on a vraiment fait des grands progrès sur la compréhension de pourquoi un cancer devient un cancer.
Presque la psychologie de la cellule cancéreuse, en fait.
En fait, en le faisant très rapidement, on pensait naïvement qu'en fait, il fallait un certain nombre d'événements au niveau de l'ADN dans les cellules qui, petit à petit, créaient des mutations successives et donc il fallait des carcinogènes qui mutaient. Et on a compris, en fait, que nos cellules normales avaient déjà des mutations dès la petite enfance, et que la plupart de ces cellules normales, même mutées, même avec des anomalies de l'ADN qui pourraient faire un cancer, ne vont jamais faire de cancer, mais que sous l'effet de changements de l'inflammation, de l'immunité, à cause de ce qu'on disait, des expositions diverses et variées, un cancer peut survenir. À partir de ça, on est aujourd'hui capable de construire de nouvelles interventions de prévention. Donc la prévention, il y a deux choses. Il y a un, c'est ce qui s'adresse à la population générale. Il faut pas fumer, il faut pas boire trop d'alcool, il faut bien manger, il faut faire de l'exercice, etc.
Mais encore une fois, parfois ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. Deux, on ne peut pas vivre ailleurs que le monde dans lequel on vit. Nous sommes en 2024. Nous sommes assis, vous êtes assis toute la journée. On peut pas faire autrement. Nos modes de vie, nous les subissons en partie. Et donc, il faut absolument lutter contre ça. Donc, notre point de vue actuel, c'est il faut, à un temps donné, chez une personne donnée, construire quelque chose en plus. C'est-à-dire une prévention un peu plus personnalisée. Et donc, il y a le dépistage, la prévention normale, mais en personnalisant, ça veut dire que chez moi, chez vous, à un temps donné, on va être capable d'identifier le risque de développer un cancer dans les années qui viennent et faire en sorte que chez vous, on évite le cancer ou on évite le cancer grave. Donc plus de dépistage, plus de prévention. Voilà l'idée.
Professeur Jean-Yves Blais, quand on parle dépistage, prévention, on parle aussi intelligence artificielle aujourd'hui.
Oui, on est capable effectivement, avec les outils qui sont à notre disposition, de repérer sur des images radiologiques de manière très fine la nature potentiellement maligne d'une tumeur. Et également, sur les examens, ce qu'on appelle anatomopathologiques, c'est-à-dire l'examen microscopique de la tumeur, on est capable de repérer, grâce à l'intelligence artificielle, certaines formes particulières de cancer, voire même faire un diagnostic de cancer.
Alors, l'intelligence... Que l'œil humain ne voyait pas jusqu'ici.
Alors que l'œil humain voyait, mais moins bien. C'est vraiment une aide, un peu comme le scanner a aidé à la radiologie conventionnelle, et c'est quelque chose qui va pénétrer le système de santé et notre organisation de prise en charge de manière très profonde dans les années à venir, c'est certain.
Alors, on va faire le tour de ces innovations, justement, mais le cancer, c'est un fléau qui est aussi vieux que la vie humaine ou qu'Homo sapiens. Question naïve, on a vu la science et la recherche avancer à une vitesse absolument fulgurante pour faire face à la pandémie de Covid, trouver des vaccins. Qu'est-ce qui se passe avec le cancer ? Qu'est-ce qui résiste ? Et est-ce qu'on a l'espoir raisonné de trouver un jour un vaccin ? Et à quel horizon ?
C'est une excellente question, merci qu'elle soit pour moi.
Je la pose à tous les deux.
En fait, le cancer est une maladie comme l'humanité, infiniment plus complexe et qui résulte d'une très longue évolution et qui est en partie due au fait que nous vivons bien plus longtemps, que notre espérance de vie a augmenté en 200 ans de façon majeure, ce qui fait que notre ADN, notre constitution n'est pas faite pour vivre aussi longtemps, contrairement aux éléphants, etc., qui font pas de cancer, par exemple. Et donc ça, c'est vrai pour une personne, mais c'est vrai aussi pour ses descendants, puisque là, un certain nombre de choses se transmettent dans l'ADN ou dans l'épigénétique, etc. Et donc, par rapport à un virus simple qui est un organisme avec quelques gènes, on est infiniment plus complexe.
Le SARS-CoV-2, par exemple.
Voilà. Ouais. Et il y a plein de cancers, et il y a plein... Mais malgré tout, et d'ailleurs, le SARS-CoV-2 nous a énormément aidés, malgré tout, il est possible aujourd'hui d'envisager à un horizon de 10 à 20 ans un certain nombre de vaccins qui pourraient empêcher la survenue de cancer.
Pas 10 des vaccins, à 20 ans.
Ouais, pas des vaccins qui s'adressent à des agents infectieux. Ça, on sait le faire. Il faut se vacciner contre le papilloma. On va éviter le cancer lié au papilloma qui est en grande augmentation.
C'est pas fait d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Il y a une grande campagne et les jeunes
oui,
ne se font pas
vacciner. Oui, c'est dramatique. On nous demande des vaccins, mais en même temps, les gens ne font pas les vaccins qui sauvent énormément de vies. C'est incroyable. Bon, c'est un aparté. Mais là, on parle de vaccins qui pourraient permettre d'empêcher des cellules de devenir cancéreuses. Oui, ça existe. Ça va commencer par des situations génétique particulière, mais ça pourra s'étendre à beaucoup de personnes ensuite.
Professeur, on parle de cancer, en fait, il faudrait mettre un S à la fin, c'est un au pluriel qu'il faudrait parler de des cancers, il en existe des dizaines et ce ne sont pas les mêmes selon qu'on est âgé ou qu'on est jeune, selon qu'on est un homme ou selon qu'on est une femme. Est-ce que à chaque fois, il faut imaginer un traitement différent pour chacune de ces formes de cancer ou est-ce que c'est un terme générique et un combat qu'on pourra mener contre un ennemi public numéro un, comme le disait la docteure.
Vous avez tout à fait raison, c'est des cancers. Et c'est d'ailleurs un des enjeux de la médecine dite de précision, que l'on voit se développer au cours des années qui viennent de s'écouler, c'est que là où on pensait cancer du poumon au singulier, on a des dizaines de maladies différentes, probablement avec un comportement et une histoire naturelle différente, qui réclament probablement des traitements différents. Et on est à cette phase de décryptage de la complexité des maladies pour tous les cancers, en fait. Donc, cancer au pluriel, traitement adapté, ça c'est certain.
Docteur Delaloge, on parlait du vaccin, qui est une des avancées en cours, une des promesses aujourd'hui de la lutte contre le cancer. Quand on parle lutte contre le cancer, en tout cas traitement, on parle aussi immunothérapie. Qu'est-ce que c'est l'immunothérapie ?
Alors, l'immunothérapie, c'est quelque chose sur lequel nos immunologistes travaillent depuis les années 70 et qui a émergé dans les 15 dernières années de façon majeure. Un certain nombre de cancers sont assez dépendants de l'immunité de l'hôte et se développent parce que ils ont des...
L'hôte, c'est la personne. La personne qui est malade.
Absolument, oui, je suis désolée pour ce terme.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que vous en parlez avec le sourire. Le sourire de la combattante, le sourire de la joie de celle qui part au combat avec l'espoir de vaincre.
Oui, bon, je dois prendre des drogues probablement pour être comme ça.
Mais qui sommes-nous pour juger ?
Non, je suis droguée à l'optimisme. Et en tout cas, ça, un certain nombre de cancers sécrètent des substances qui font que l'immunité de la personne qui a ce cancer est dégradée. Et en fait, l'immunothérapie recharge les batteries, permet aux cellules immunitaires de l'autre de reconnaître le cancer, d'aller détruire le cancer. Et ça marche sur pas mal de cancers. Ça a été révolutionnaire dans la prise en charge de certains cancers, mélanome, cancer du rein, du poumon, etc. Aujourd'hui, on arrive à peu près à la fin de la première génération d'immunothérapie. Il y a d'autres générations qui arrivent. Et l'association de ces immunothérapies à d'autres traitements est aussi assez remarquable. Donc, on a encore un champ énorme d'immunothérapie à développer.
Une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le taux de guérison progresse, professeur? Pour la plupart des cancers, on parle de guérison quand aucun signe de rechute n'a été perçu après 5 ans après le traitement?
Alors, c'est une réponse qui est plus complexe que cela, mais effectivement, le nombre de guéris augmente, la proportion augmente, ça varie selon les cancers, évidemment, et le chiffre de 5 ans est un chiffre probablement en partie inexact. Ah oui. C'est vrai pour certains cancers, c'est vrai même plus tôt pour certains cancers, c'est plus tard pour d'autres.
Bonjour Guillemette, et merci d'être avec nous dans le grand entretien de France Inter.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour nos invités, ou un témoignage en tout cas, puisque vous êtes à la tête d'une association.
Oui, tout à fait. C'était plutôt un témoignage. Je dirige une association qui s'appelle Sentinelle et dont la vocation, c'est de faciliter la collaboration entre les chercheurs et les citoyens. Et ceux à qui je voulais m'adresser aujourd'hui, c'est à ceux qui nous écoutent, pour leur dire que la recherche, c'est aussi notre affaire à tous. C'est pas que l'affaire des chercheurs. Parce que les chercheurs, ils ont besoin de nous. Pour avancer pour mieux, pour avancer plus vite, ils ont besoin qu'on participe activement. Et on pense souvent aux essais thérapeutiques, donc aux essais pour des nouveaux traitements qui sont hyper importants. Mais il y a tout un autre pan de recherche qui sont des effets, des recherches sur les effets secondaires des traitements, sur la qualité de vie dans l'après-cancer, sur l'impact de la maladie sur la famille. Et ils ont besoin qu'on participe, qu'on ait été malade ou qu'on n'ait pas été malade. Et ce sont des participations généralement assez simples. On vous demande de rencontrer un chercheur, de répondre à un questionnaire. Donc s'il vous plaît, amis auditeurs, participez.
Partagez vos datas.
Partagez vos datas, exactement. Et vous, les journalistes, je voudrais vous interpeller en vous disant que la recherche biomédicale, c'est très important parce que ça sauve la vie des malades. Mais il y a tout un autre pan de recherche qu'on ne met pas assez en avant, qui est la recherche sur la qualité de vie, qui accompagne les patients pendant et après les traitements et bien aussi sûr tout leur entourage et qui est extrêmement importante au quotidien.
Merci infiniment Guillemette pour votre témoignage. Une question, est-ce que lutter contre le cancer, ce n'est pas aussi lutter contre la dégradation physique, contre la douleur? Est-ce que ça ne fait pas partie également du traitement?
C'est certain que la prise en charge,
professeur Jean-Yves Bay,
la prise en charge des effets secondaires de la maladie est un élément crucial pour non seulement la qualité de la prise en charge, mais également l'efficacité de la prise en charge. Et on a montré de manière très récurrente dans de nombreuses études qu'une prise en charge précoce des soins de support améliore de manière très significative l'efficacité des traitements et bien entendu la qualité de vie des patients. Donc ça devrait être quelque chose de plus largement diffusé et on est en train de le faire dans Unicancer et dans de nombreuses structures hospitalières qui ont intégré très tôt la prise en charge soins de support pour la prise en charge des patients.
Est-ce qu'aujourd'hui les hôpitaux sont suffisamment armés justement, docteur Suzette de la Loge, pour accueillir tous ceux qui sont malades d'un cancer? Je pense par exemple au cancer pour des enfants, par exemple, à la question pédiatrique, mais il y a de nombreux services qui sont saturés. Vous travaillez à l'Institut Gustave Roussy, et c'est l'un des rares espaces où on peut pratiquer certaines formes de médication ou de lutte contre la maladie.
Aujourd'hui, en France,
la France est sous-équipée?
Aujourd'hui, on est encore bien armé, puisque je garde mes métaphores guerrières, mais ça se dégrade à une vitesse assez rapide. Je veux pas envoyer des messages négatifs, mais on manque beaucoup d'infirmières, on manque beaucoup de soignants, on manque d'un certain nombre de professionnels, et on sait des projections de l'Union européenne en particulier qu'en fait il va falloir doubler le nombre d'ici 2050. Faut doubler le nombre de personnes qui travaillent dans la santé en général, pas que pour le cancer, mais c'est clair. Et donc là, il faut absolument qu'on ait une réaction. Aujourd'hui, on est encore armé, en particulier pour le cancer. Il y a eu beaucoup de moyens, il y a eu les plans cancer en France. Mais je pense que là, il faut absolument réagir parce que le futur nous préoccupe pas mal. Mmh. Plus les pénuries de médicaments, etc. Oui.
Professeur Blay, je continue mon tour d'horizon des différentes avancées. On a parlé du vaccin, on a parlé de l'immunothérapie. Autre chose, alors expliquez-nous simplement pour les béotiens que nous sommes, autre gros progrès récent, les thérapies ciblées, qu'est-ce que c'est?
Alors, les thérapies ciblées, c'est en fait très simple. Maintenant qu'on comprend la biologie de la cellule cancéreuse, qu'est-ce qui est muté? Quelle est la clé de démarrage de la cellule cancéreuse? Il s'agit, au lieu de mettre dessus du desktop qui va la détruire, de bloquer la
chimiothérapie.
La chimiothérapie. c'est d'enlever la clé ou de bloquer la clé. Et de cette manière-là, on comprend assez vite qu'on a une efficacité qui est spécifique de la cellule cancéreuse. Jamais complètement.
Parce que pendant
spécifique.
Très longtemps, on a pensé qu'il fallait tuer la tumeur pour guérir du cancer.
Oui, parce que les cellules cancéreuses sont paradoxalement un peu plus fragiles que les cellules normales qui réparent mieux. Mais maintenant, en comprenant mieux la biologie des cancers, on sait bloquer les clés. En fait, il n'y a pas qu'une seule clé. Ça, c'est une vision qui serait malheureusement idéale, mais qui n'est pas le cas. On sait bloquer quelques clés de la cellule cancéreuse qui fait qu'elle s'arrête ou qu'elle meurt parce qu'elle ne peut pas supporter de vivre sans ses démarreurs.
Et ça évite donc beaucoup d'effets secondaires. Là, on a un témoignage de Christian sur l'application qui dit certains médicaments font plus de dégâts qu'ils n'aident.
Alors, certains médicaments, la chimiothérapie cytotoxique a des effets secondaires importants. Les thérapeutiques ciblées peuvent en avoir. L'immunothérapie peut avoir également des effets secondaires. On ne maîtrise pas tout.
La radiothérapie
évident.
Également.
Je pense que toutes les thérapeutiques qui sont actives vont par définition avoir des effets secondaires sur les cellules normales. La question, c'est l'équilibre, le poids des effets secondaires par rapport aux bénéfices. Et de ce point de vue-là, indiscutablement, les dernières années, on a progressé en termes d'efficacité et en termes de réduction d'effets secondaires.
Bonjour Eric, vous nous appelez de Lyon justement, où le professeur exerce.
Oui, bonjour.
Et vous avez une question qui est très importante justement sur le développement des nouvelles thérapies contre le cancer.
Effectivement, mes deux parents sont décédés d'un cancer et je voulais savoir si j'ai plus de chance ou de malchance d'avoir un cancer.
Réponse.
Eric, en fait,
il y a le facteur génétique.
Voilà, il peut y avoir des facteurs génétiques, mais en fait, c'est pas additif entre les deux branches familiales. Ça dépend de l'âge et du type de cancer. Donc, je pense qu'il faut en parler à votre médecin pour qu'il vous dise précisément. Effectivement, il y a entre 5 et 10% des cancers qui sont vraiment héréditaires. C'est une petite quantité. Et c'est surtout pour les cancers les plus fréquents, le sein, le côlon, etc. Pas le poumon, par exemple, qui est beaucoup lié au tabac, bien évidemment.
Oui.
Mais ça vaut le coup d'en parler à votre médecin, de voir si chez vous, il pourrait y avoir un sur-risque, éventuellement de voir un généticien si besoin.
La question de la recherche en génétique, elle est cruciale également, professeur, dans la lutte contre le cancer et dans la nouvelle manière de lutter contre cette maladie, ou ces maladies.
Le prix Nobel qui a découvert les oncogènes, sa première phrase du discours du prix Nobel, c'était « Le cancer est une maladie des gènes de la cellule tumorale ». Donc des gènes de la cellule tumorale. Les gènes de la cellule tumorale sont mutés, activés, abîmés. Et effectivement... analyser sur l'ensemble de la cellule tumorale les gènes qui sont mutés, il y en a des centaines, parfois des milliers, parfois des centaines de milliers qui sont mutés, de mutations pardon, et bien c'est une manière de comprendre et donc de traiter efficacement.
Une question sur l'application France Inter qui vous est posée par Alexandre, les cancers explosent mais pourquoi ? Nous n'avons probablement pas toutes les réponses mais nous savons scientifiquement que les pesticides en sont l'une des causes. Dans le même temps, j'entends dans votre journal, c'était évidemment dans le journal d'un que l'on assouplit les règles sur les pesticides sous la pression du monde agricole, nous marchons sur la tête. Et il parle évidemment de cette décision prise par le gouvernement de suspendre ce plan écophytose.
Oui, évidemment, c'est une bonne question et notre vie est faite de contradictions. Et donc il faut se situer toujours à un niveau macroéconomique et macro-santé. Et il y a un certain nombre de choses qu'on a faites, de choses qu'on a développées pour vivre plus longtemps et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir des espérances de vie plus longues qui sont délétères. Le développement de la nourriture ultra transformée, ça permet à une grande partie de la population mondiale de vivre plus longtemps, ça augmente le risque de cancer, de maladies métaboliques, etc. Et les pesticides, c'est exactement la même chose. Et donc à nous de trouver un équilibre ensemble dans les prochaines années. C'est la même question que l'écologie. L'écologie et la santé se rejoignent totalement dans de nombreux domaines. Et donc je pense qu'une vision globale écologie-santé pour le futur est absolument utile. Je pense qu'à titre d'individu, on peut faire un certain nombre de choses, mais malheureusement, on est plus dans des décisions de l'Union européenne, de nos gouvernements.
Professeur Blais, pour revenir au progrès dont on a parlé tout au long de cette interview, voilà, on en parle, on va avoir des meilleures chances de survie, ce sont des espoirs. Est-ce que ça sera accessible à tout le monde ? On va être remboursé ? Ça va être prescrit ? Comment ça va se passer ?
C'est une importante question, parce qu'effectivement, cette recherche a un coût, les médicaments ont un coût, et actuellement, les sociétés occidentales sont en train de s'armer pour voir si il est possible de délivrer tous ces nouveaux traitements à tous les patients de manière équitable. Globalement, on peut dire qu'on est en France et en Europe occidentale plutôt bien doté, mais il y a des questions qui se posent. Effectivement, c'est un des enjeux des années à venir d'avoir une médecine du cancer équitable pour tous.
Et d'ailleurs, il y a la question des brevets. On apprenait ces derniers jours que la France était troisième sur le podium européen concernant les brevets pour lutter contre le cancer. Troisième en même temps, très loin derrière l'Allemagne. Et la moitié de ces brevets sont faits par les Américains. Donc c'est vrai que la France est dans une position assez paradoxale. Votre optimisme, il tient toujours, docteur ?
Moi, je suis très européenne et française aussi. Je pense qu'en fait, on est en Europe, on est dans le monde. C'est très important que la France soit compétitive. Je suis absolument persuadée de ça. Mais je pense que la recherche aujourd'hui, elle n'est pas dans un pays. Elle est à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale. Et notre espoir, il n'est pas que de la France. Et je pense qu'il y a d'autres aspects. Il n'y a pas que les médicaments. Il y a des aspects de médecine digitale. Ouais. Il y a des aspects de médecine sociale sur lesquels on est très bon ou on peut être très bon. Il y a des aspects d'intelligence artificielle. Et les brevets à venir, ça va être des biomarqueurs de la biologie, des clés, ça va être de l'intelligence artificielle aussi.
D'un mot, ce sera le mot de la fin, professeur.
C'est très important ce que dit Suzette. Au-delà des progrès technologiques, on a également des progrès organisationnels qui nous ont montré qu'on était capable d'améliorer la qualité du traitement et le taux de guérison simplement en s'organisant mieux et en coordonnant les prises en charge.
Ah oui.
C'est très important.
Nous avons de très nombreux appels et messages d'auditeurs qui remercient le personnel soignant, des personnes à qui on a détecté un cancer. et qui disent qu'il faut absolument les valoriser, qui les remercient. Et moi, je vous remercie en tout cas d'être venu ici sur France Inter pour lancer cette grande journée consacrée à la science face au cancer. Le mot de cancer, bientôt il sera plus synonyme de mort, docteur ?
Il est déjà plus synonyme de mort.
Il est déjà plus synonyme de mort ?
Il n'est plus synonyme de mort.
Bon, alors mort au crabe quand même. Et en tout cas, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez aller jeter un œil sur le site d'Inter pour voir l'ensemble des programmes consacrés à cette thématique de la science face au cancer, notamment à l'intelligence artificielle dans le 13-14, dans la tête au la Terre au carré, et à 19h20, dans le téléphone sonne, ce sera également important pour vous entendre, chers auditeurs. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été nos invités. À suivre sur Inter, la revue de presse.